Mobile.
Les infos choisies.
Chaque vendredi de 12h30 à 13h.
Sur Radio Galère à Marseille
et Ayoli Radio à Avignon.
Des infos.
Qui nous touchent.
Qui nous concernent.
Qui nous ressemblent.
Qui nous parlent.
Qui nous donnent de la force.
Qui nous font réagir.
C'est parti pour 30 minutes d'infos choisies.
Bonjour, bonjour. Nous sommes le vendredi 2 août 2024, c'est l'heure des infos choisies. Vous nous écoutez sur Radio Galère, mais aussi sur le site internet en DAB+ et en FM, et sur Ayoli Radio. Donc bonjour à vous, bonjour Michel, bonjour Sonia. Tu commences par un édito sur la répression, c'est bien ça ?
C'est bien ça. Alors, répression sur plusieurs bords. Déjà, vous le savez probablement, la semaine du 15 au 21 juillet avait lieu le village de l'eau à Mel, dans les Deux-Sèvres. Le principe, c'était essentiellement des conférences, de la documentation sur la nécessité d'une action pour la sauvegarde de l'eau. Et le week-end, des manifestations et des actions étaient prévues pour mettre au jour les aberrations écologiques vers lesquelles nos pouvoirs publics nous enfoncent. Mais, pour certaines, ces actions n'ont pas pu avoir lieu. En cause, une répression largement démesurée face à la vocation pacifique des événements, c'est-à-dire qu'on a eu 3000 policiers mobilisés pour 10 000 manifestants prévus à peu près. Pour citer quelques exemples de cette répression, la mise en feu d'un champ à force de lacrymos. Évidemment, les membres du village de l'eau ont dû faire demi-tour et l'action a été abandonnée. Un joli symbole quand même, ces policiers qui foutent le feu contre le village de l'eau. La fouille systématique de tous les véhicules des personnes se rendant dans le lieu où un rassemblement devait se dérouler. Un rassemblement pour un pique-nique sur les lieux prévus d'une bassine, qui du coup n'a pas pu avoir lieu à l'endroit prévu. C'était effectivement trop éco-terroriste, vraisemblablement. Sans parler encore de la répression policière lors des manifestations à La Rochelle. D'un autre côté, on a aussi tout ce qui est axe JO, une petite liste non exhaustive des actes de répression démesurés qu'on a pu voir surtout à Paris les derniers jours. Pour avoir collé des stickers critiquant des JO, pas si jojo et autres jeux de mots assez bon enfant, des militants se sont pris 750 euros d'amende pour, je cite, « souillure de matériel affecté au transport ferroviaire ». C'est marrant quand on sait que les panneaux tout roses pour indiquer la route pour les stades sont aussi des stickers. Est-ce que des amendes ont été distribuées lors de l'installation de la pub des JO de Paris, présente depuis des mois dans l'intégralité des voies de transport français concernées ? On en doute pourtant. Pour avoir badigeonné de peinture à l'eau, donc qui part à l'eau, le seuil de l'aviation civile, des militants ont dû se manger 48 heures de garde à vue. C'est-à-dire que les manifestants ont donc probablement plus côtoyé les murs de la garde à vue que la peinture à l'eau, ceux de l'aviation civile. Pour avoir escaladé des arbres dans le bois de Vincennes, des militants se sont fait reprendre par la BRAVEM et s'en sont suivis 22 heures de garde à vue. La BRAVEM, c'est l'acronyme de la Brigade de répression de l'action violente motorisée. Donc, outre le fait que pourquoi être motorisé contre des personnes dans des arbres, l'intervention de ce groupe policier est très difficile à comprendre étant donné l'action en question. Il y a quand même action violente dans le nom, et en l'occurrence c'était de l'escalade. L'argument, c'était que les agents ont supposé le projet d'une action violente, et en fait, c'était pas du tout vrai. Les militants eux-mêmes avaient prévu une action tout à fait différente de celle qui était supposée par les agents. Sans parler encore de la répression préventive. On a pu observer une augmentation drastique des distributions d'assignations à résidence administrative, qui est déjà de base un procédé liberticide, mais là qui a été encore plus augmenté de façon abusive et arbitraire. À Paris, l'obligation de détenir un QR code pour pouvoir circuler dans plusieurs cas. La quantité record de policiers mobilisés à Paris à l'occasion des JO encore. Donc c'est intéressant de savoir qu'il y a quand même beaucoup de policiers des régions qui sont maintenant à Paris. Peut-être que c'est le bon moment pour faire quelques sabotages, je ne sais pas, je propose. Mais ce n'est pas tout, évidemment. Également appel à des services de sécurité privés, mais aussi à des militaires. En fait, on se demande, est-ce que c'est des athlètes, des touristes ou des citoyens dont ils ont autant peur ? Parce que nous, franchement, c'est des flics qu'on a peur.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi
30. Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Et nous parlons de la victoire des femmes de chambre du Radisson Blue. Donc rappelons-le, depuis le 24 mai, elles Elle revendiquait des hausses de salaire, des aménagements du travail et enfin leur patron leur a accordé une prime, une hausse de salaire et un 13e mois. Voilà, 20 secondes de réjouissance avec elle. Elles ont réussi donc à arracher à la société Aqua, qui les emploie un 13e mois, une hausse des salaires et une limitation du nombre de déplacements entre l'hôtel à hauteur de 3 par mois. Rappelons qu'elles étaient tous les matins à faire du bruit devant l'hôtel, n'en déplaise aux autres salariés et aux touristes qui buvaient leur café. Mais dans ce monde de merde, une petite victoire cache souvent un problème. On dirait bien que l'hôtel, qui n'est pas l'employeur, a porté plainte contre elle pour dégradation. Pour cause, là on parle même pas de colle ou de peinture à l'eau, on parle de eau et de farine répandues sur le trottoir devant l'hôtel. Ils ne savent pas quoi inventer pour réprimer et réprimer les plus pauvres. Toutes les femmes de ménage sont entendues depuis hier par les auditions au commissariat de Noailles. Il y a eu un appel de CGTSO pour les soutenir, donc allons les soutenir dès aujourd'hui aussi. Et un nouveau chapitre judiciaire donc s'amorce pour elles, alors qu'elles viennent de sortir victorieuses de leur grève. Donc continuons la lutte solidaire et joyeuse comme les femmes de chambre l'ont fait depuis 69 jours.
Les infos choisies vendredi.
Les infos choisies vendredi.
Les infos choisies vendredi midi 30.
Un poids sur les mineurs non accompagnés qui dormaient encore à l'église Saint-Féréol il y a 2 semaines. On vous laisse écouter Islam, interviewé hier lors d'un rassemblement devant la préfecture.
Est-ce que tu veux bien te présenter?
Ok, bonjour, moi c'est Islam, je suis ivoirien.
Ok, et alors quelle est ta situation actuelle? Qu'est-ce qui se passe en ce moment?
Bon, nous sommes des jeunes exilés à Marseille ici depuis un bon temps. Nous sommes arrivés à Marseille ici avec l'espoir d'avoir une vie meilleure parce que chez nous ça ne va pas. Bon, depuis lors nous sommes ici à Marseille, bon, on se rend compte que c'est encore plus pire. Alors, on est venu, on a été accueillis par la DAP 13. Ils nous ont, bon, moi, je suis arrivé en novembre. Un mois après, j'ai fait un mois dans la rue et après, on m'a logé. Bon, comme plein d'autres jeunes aussi, c'est pareil. Alors, on nous a logé. Après une semaine, 2 semaines, tu fais l'évaluation, on te dit, tu n'es pas mineur. Quand tu leur demandes les motifs, on te dit, soit il y a un trait sur ton visage. Soit tu sais trop bien t'exprimer, tu sais pas bien t'exprimer, tu es grand, tu es petit. En tout cas, des trucs vraiment qu'on ne comprend pas. Alors, bon, nous sommes pratiquement tous en situation de recours. Et nous étions dans un squat où nous vivions là-bas. Et ils nous ont dit encore que nous devons quitter le squat. Alors, nous avons quitté le squat, nous n'avons pas où aller. C'est un peu difficile. Ensemble, on a décidé de se réunir et puis chercher une solution. Et comme solution, nous avons trouvé d'aller à l'église Saint-Férol du Vieux-Port. Voilà, c'est comme ça le samedi 13 juillet que nous nous sommes rendus là-bas et nous sommes rentrés. Quand on a échangé avec les et ceux qui gèrent l'église, bon, ils nous ont dit au début que ce n'était pas possible que, pour qu'on puisse dormir là-bas. Ah, mais nous, on leur dit carrément que vu qu'on n'a pas d'endroit où aller, on ne peut pas encore se retenir dans la rue, donc on allait dormir là-bas. Mais après plusieurs échanges, ils ont compris, comme de bons parents, ils ont accepté qu'on reste là-bas. Et par la suite, ils ont essayé de rentrer en contact avec la mairie, la préfecture, le juge des enfants, pour essayer de trouver une solution. Et c'était le vendredi 13, et ce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient nous croiser, comme c'était le week-end, ils allaient nous croiser le lundi qui allait suivre. Et nous étions là le lundi matin, jusqu'à l'après-midi, on n'a vu personne. On était obligé de les rappeler encore. Et ils nous ont dit ils vont revenir. Et quand ils sont venus, la solution qu'ils ont eu pour nous, c'était de nous loger le même jour. À la base, c'était un jeudi. Ils avaient prévu nous loger ce jeudi. Mais non, ça ne nous arrangeait pas. Puisque si tu nous loges le jeudi, le vendredi, on va où? on s'est retrouvé encore dans la rue. Donc on a préféré les 10, ça ne nous arrangeait pas, on préférait rester à l'église, là où on sait qu'on va dormir à quelque part. Et ils sont partis, on ne s'est pas attendu, ils sont partis. Après encore, ils sont revenus le lendemain, vendredi, et la solution qui a été trouvée, c'est qu'ils vont nous loger dans les 115. Mais on va nous loger dans les 115 et puis c'est 15 jours renouvelables. Bon, au début, on n'était pas d'accord. Bon, vu avec la, on n'était pas d'accord, ils ont essayé de mettre la pression sur les dirigeants de l'église pour qu'ils nous mettent aussi la pression pour qu'on accepte. Bon, on a pas eu d'autre choix que d'accepter. Voilà, donc c'est comme ça, ils ont essayé de nous répartir dans les 115, dans les hôtels des 115. Bon, et chacun est parti dans son coin. Le même vendredi, on a été logé. Et quand on est arrivé là-bas, sur le champ, il y a eu encore un autre problème. Il n'y a pas de... Quand on demande aux responsables de l'hôtel de la nourriture, on nous dit qu'il n'y a pas de la nourriture, on est là que pour dormir. Alors, on peut pas... Étant enfin, on ne peut pas dormir. C'est impossible. Alors, donc, on les a rappelés encore. Bon, ils nous ont dit qu'ils vont essayer de voir ce qu'ils peuvent faire. Bon, dans ça aussi, on nous dit que notre bon a été activé 3 jours avant qu'on ne rentre à l'hôtel. C'est-à-dire au nom de 15 jours, on va faire 12 jours. Donc c'est un peu dans ça on laisse. Nous, ce qu'on leur demande, c'est qu'ils nous considèrent comme d'autres jeunes, leurs enfants. Alors on veut, tout ce qu'on veut, c'est aller à l'école, faire un métier et puis par la suite, elle est régularisée et puis vivre une vie tranquille, quoi, sans trop de problèmes. Parce qu'on est là, il y a beaucoup de tentations. On voit beaucoup de choses. Alors, on a préféré ne pas s'adonner à ça. Il y a la vente de la drogue, il y a tout et tout. Souvent, d'autres même nous approchent pour nous parler de ça. Mais ce n'est pas notre éducation qu'on a reçue. Donc, on a préféré rester dans notre coin et puis essayer d'échanger avec eux à l'amiable pour trouver une solution. Comme nous sommes les enfants, ils sont nos parents. Voilà, donc la situation est un peu ça. Mais on n'a pas encore eu de solution. Tout ce que nous, on leur demande, c'est qu'on veut aller à l'école, on veut faire un métier par la suite et être utile à la France. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, il y a des chambres, ça ne va pas. Voilà, y a les chambres des autres jeunes, les toilettes ne sont pas en bon état. La maison n'est même pas en bon état. Mais on est là-bas et on espère que ça va s'améliorer. Bon, c'est un peu ça la situation que nous vivons en France ici, précisément à Marseille.
Après, c'était toujours ?
Bon, on nous avait dit que ça allait être renouvelé automatiquement. Quand nous sommes arrivés dans les hôtels, les choses... Les éducateurs de Sarah Logiciel nous avaient dit que ça allait être renouvelé automatiquement. Mais on s'est rendu compte que non, c'est pas comme ça. On devait appeler le 115 le dernier jour. Alors nous-mêmes, on a failli se faire expulser hier. Parce que nous, on ne savait pas. Alors nous, c'est après, on nous a appelé qu'on devait appeler le 115. Maintenant, on a appelé le 115 pour qu'il les renouvelle. On nous a laissé là-bas dormir hier parce qu'on ne savait pas. Alors donc, c'est pas renouvelé automatique. Il faudrait qu'on appelle le dernier jour pour qu'ils renouvellent. Et ça aussi, s'ils ont renouvelé, tu restes. S'ils n'ont pas renouvelé, tu dois sortir encore.
Donc une situation extrêmement précaire. À l'heure actuelle, donc, Islam l'a dit, les hôtels dans lesquels certains mineurs sont hébergés ne leur fournissent pas tous les repas. Donc ils doivent se débrouiller pour manger, sachant qu'ils n'ont aucun autre endroit où aller. Certains leur demandent de quitter les lieux à 9h, etc. Sans parler des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, qui sont des structures qui ne sont absolument pas adaptées pour des enfants, et beaucoup de jeunes ont vécu des expériences traumatisantes dans ces lieux-là. Donc, on rappelle que c'est quand même une compétence, et, enfin pas une compétence, mais c'est un devoir du département de s'occuper des mineurs isolés. Et le fait que les MNA soient isolés sur le côté est uniquement une action et un regard sur eux, qui les remet dans leur statut d'exilés et qui refusent de voir le fait que ce sont des enfants qui ont besoin d'accompagnement et qui ont besoin d'une aide pour pouvoir continuer notamment leur scolarité. Pour les aider, les bénévoles appellent à rester mobilisés, à maintenir la lutte, donc pour soutenir les MNA surtout de façon collective, pour continuer de pouvoir instaurer ce rapport de force. Les jeunes peuvent aussi avoir besoin d'aide pour se procurer de la nourriture, puisque l'hôtel ne les fournit pas toujours, et pour rester accompagnés dans leur démarche et... Voilà, que ce soit en termes de santé par moment ou de démarches administratives.
Vous êtes toujours sur Radio Galère, 88.4 FM.
Nous allons rapidement parler de la transphobie. Dimanche dernier a eu lieu donc un rassemblement contre le racisme et la transphobie au parc Longchamp. Le 5 juillet 2024, donc petit rappel, Angelina, 55 ans, femme trans, a été tuée par son compagnon à Compiègne. Quelques jours plus tard, le 9 juillet, Géraldine, 30 ans, elle aussi trans et travailleuse du sexe, est tuée à Paris par un client. Donc le racisme et la transphobie poussent à la violence, le racisme et la transphobie tuent. Voilà, il y a eu des rassemblements un peu partout en France, à Marseille aussi, et je vais vous lire un extrait seulement parce que j'ai pas le temps, là, on dépasse le temps, qu'Emma du collectif Transvénère a lu au rassemblement. Donc merci de nous avoir transmis le texte. Encore une fois, nous revoilà, car qu'on le veuille ou non, la mort fait partie de nos vies, de ma vie. L'ombre de la mort guette quand au cours d'une insomnie causée par mon taf transphobe, j'apprends la mort d'une deuxième sœur. Je l'en prends par des adelphes car on est silencieux même dans la mort. L'ombre de la mort guette quand je dois passer mon temps à rassurer mes proches, cis, qui fantasment les violences qu'on subit, mais incapables de considérer leur propre violence transphobe. L'ombre de la mort guette quand j'observe impuissante des sœurs sombrer peu à peu. L'ombre de la mort guette quand nos regards se posent sur nos cicatrices qui témoignent de nos souffrances et de notre résilience. L'ombre de la mort guette ces soirs ou dans l'intimité d'un appartement où on se raconte nos enfances, nos vies, souvent jalonnées de souffrances et de violences, mais aussi d'espoir, de bonheur et d'amour. L'ombre de la mort guette quand je me jette corps et âme dans la lutte pour faire taire mon désespoir et mon impuissance. L'ombre de la mort guette quand je combats au quotidien ces pensées sombres qui me rongent de l'intérieur. L'histoire de nos luttes et vies trans est imprégnée du rapport à la mort, à nos morts. Elle influence nos trajectoires personnelles et nos dynamiques collectives. Ce rapport intime à la mort ne doit jamais nous faire oublier qu'il résulte de la société hétéropatriarcale et de la transmisogynie d'État. Si on doit encore se réunir ce soir, c'est bien à cause de l'incapacité de la société à faire face aux violences conjugales et aux féminicides qui se manifestent de manière particulièrement violente pour les femmes trans. C'est aussi en raison des lois putophobes validées par la justice complice. Voilà, c'était un extrait du texte d'hommage pendant le rassemblement du 28 juillet, écrit par Emma du collectif Transvénère. On s'écoute une petite chanson qui est parue en juin, une reprise qui s'appelle Honte France. Vous allez comprendre le clin d'œil.
Il revient à ma mémoire des souvenirs par milliers. Je revois les ombres noires de centaines de policiers. Sur le chemin de la révolte, je criais à pleine voix des colères à mille volts et des slogans pleins d'émoi. Honte France, cher ennemi de mon enfance, berceau de l'intolérance. Tu ravives des douleurs. Honte France, cher ennemi de mon enfance, berceau de l'intolérance. Tu ravives des douleurs. Tes messages de massacre en esclavage ne nettoieront pas les pages de ton livre des horreurs. Oui, tu m'aimes quand je te remplace même. Oui, tu m'aimes surtout comme souffre-douleur. Honte France, cher ennemi de mon enfance, berceau de l'intolérance, tu ravives des douleurs. Honte France, cher ennemi de mon enfance, berceau de l'intolérance, tu ravives des douleurs.
je te remplace même. Oui, tu m'aimes, surtout comme souffre douleur.
Voilà, c'était Frère Jacques et Klaus Tinto pour Honte France. On a bien compris le clin d'œil de la chanson de Charles Trenet. Alors, nous accueillons maintenant Nichelle Telles, brésilienne vivant à Marseille, libraire à la maison d'édition Wild Project, qui vient de monter une nouvelle maison d'édition, BR Marginalia, avec un premier livre qui s'intitule Rouge Favela de Wesley Barbosa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour. D'abord, je voulais remercier aux Infos Choisies pour l'invitation.
Et du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter et te situer rapidement ?
Oui. Bah, du coup, je m'appelle Nichelle Telles, j'ai 31 ans. Je suis venue en France en 2018 pour faire un DUT en métier du livre. Et au long de ma formation, j'ai découvert, en faisant un devoir pour le cours d'édition, que je voulais créer une maison d'édition. Du coup, une maison d'édition dédiée à la littérature marginale et périphérique afro-brésilienne. Voilà, du coup, j'ai eu cette idée en tête de créer une maison d'édition. Le parcours, c'était pas très évident, donc ça fait six ans que j'ai vécu en France et ça fait 4 ans que ce projet était en naissance. Du coup, juste pour situer aussi, je suis née à Bahia, à Salvador, la capitale de Bahia, que c'est l'Afrique brésilienne, et je viens d'une famille composée par une mère solo et 3 enfants, dont je suis la fille aînée. Et voilà, du coup, j'ai une passion par les livres depuis petite. C'est pas que par la littérature, c'est par le livre aussi autant qu'objet. Donc j'aime beaucoup la relure. Et pour moi, du coup, de créer la maison d'édition, c'était... J'ai essayé un peu de croiser un peu ces passions. Voilà.
D'où ma deuxième question. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ton choix de monter une nouvelle maison d'édition ? Parce que il y a d'autres maisons d'édition qui traduisent déjà des livres du brésilien portugais. Et du coup, voilà, pourquoi une nouvelle maison d'édition et pas leur proposer à eux un ouvrage ?
Du coup, à la base, je voulais être plein de choses dans la vie. J'ai toujours envie de faire des choses différentes. Mais une des choses que je voulais être en faisant ce DUT au métier du livre, c'était de devenir agente littéraire. Et donc, à la base, c'était ça, envie d'être agente littéraire, donc de faire le point entre les écrivains au Brésil et les maisons d'édition en France. Et après, une fois que j'ai vu mon projet fait sur un papier, c'était un projet pour un cours d'édition, de créer une maison d'édition, non, créer un catalogue dans une maison d'édition ou créer une collection. Et une fois que j'ai vu ce projet sur le papier, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi ne pas le réaliser ? Et comme on est 8 milliards sur Terre, au plus, je ne sais pas, je me suis dit, je suis sûre qu'il y a une autre personne qui a pensé à ça avant. Donc je suis allée sur Internet, j'ai tapé littérature marginale brésilienne et j'ai trouvé une maison d'édition qui s'appelle les éditions Anacaon, qui donc il y a une collection dédiée aussi à la littérature marginale brésilienne. Mais bon, c'est juste une maison d'édition, donc je trouve que il y a de la place aussi pour 2 nouvelles. Donc c'était pour ça que j'ai voulu aussi créer. C'est vraiment d'aller dans la source des écrivains qui sont dans la marge de la marge.
Donc cette maison d'édition, elle est à Paris, c'est ça ?
C'est ça. Elle est à Paris.
Je les avais rencontrés une fois là pour une soirée des rosaces à Marseille, il me semble. Mais du coup, effectivement, vous êtes donc deux maisons d'édition sur les littératures marginales.
Oui.
Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est la littérature marginale brésilienne ?
Oui. Ben, du coup, au Brésil, on appelle littérature marginale, mais aussi littérature périphérique. Parce que marginal, ça peut... marginal, c'est très large. Et quand on dit marginal et périphérique, ça veut dire que ça vient des favelas. Ça vient des sociétés qui sont à la des communautés qui sont à la marge de la société, donc des écrivains qui ne suivent pas les normes littéraires, les normes, je sais pas, de la littérature canonique
classique
qui fuient cette réalité et qui racontent leur propre réalité. Donc c'est pas comment dire, un écrivain qui vient, je sais pas, du milieu aisé, qui vient passer un séjour dans une favelle, qui va écrire sur la réalité. Là, c'est des gens qui écrivent sur leur vécu. Donc, des histoires racontées par des personnes concernées. Et du coup, mon envie, c'était de vraiment créer ce pont entre la périphérie brésilienne et aussi la périphérie en France. C'est de voir comment ça va se converger, comment ça va dialoguer. Et je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question.
Ouais, c'est très clair en tout cas tout ce que tu as dit.
Voilà.
Et du coup, c'est la littérature des marchés de la périphérie. Et j'ai une question parce que tu utilisais le terme favela, peut-être tout le monde ne le connaît pas. Mm-hmm. Et qu'il est, de ce que tu m'expliquais avant, il est très chargé. Je pense que l'équivalent en français, c'est bidonville, mais il suffit pas parce qu'il a toute une histoire, ce terme. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus?
Oui. Mais du coup. Je pense que dans le monde entier, il y a une vision de favela que c'est le lieu qui a le trafic de drogue, qui est contrôlé par des trafiquants. Et c'est très, je trouve que c'est très limité de réduire la favela à juste à ça, parce que c'est un lieu de, voilà, les favelas c'est aussi un lieu de résistance à la base. Donc pour qui sait pas, l'esclavage au Brésil, elle était officiellement, avec beaucoup de guillemets, elle était finie en 1888. C'était déclaré avec une lettre signée voilà, que l'esclavage elle était interdite à partir de ce moment, en sachant que bah, sur le papier c'est une chose et dans la réalité c'est autre. Mmh. Et donc toutes les personnes issues de l'esclavage, une fois qu'il y a eu l'abolition, elles n'avaient pas un travail, elles n'avaient pas de scolarité, donc ils étaient vraiment laissés à la marge. Donc les favelas, elles sont construites à partir de ça. Donc c'est un lieu de résistance qui on retrouve dans sa majorité la population afro-descendante. Et bah, du coup, c'est un lieu qui est abandonné par l'État, qui a beaucoup de misère, de pauvreté, de violence, violence policière surtout. Mais aussi, c'est un endroit de solidarité, de bonheur, de fête. Donc, même dans des conditions de pauvreté et de violence très marquées, il y a aussi cet espace d'espoir et de joie de vivre malgré toutes les contraintes.
Et peut-être pour contextualiser encore une fois, pour les personnes qui ne connaissent pas trop le Brésil, peut-être il faut rappeler qu'il y a un racisme énorme et une disparité entre blancs et personnes racisées très forte. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots? Ce qui explique aussi pourquoi il y a la littérature des marges, quoi.
Oui, du coup, je pense comme en France aussi, la littérature, elle est un peu dans tous les milieux d'art, cinéma, théâtre et tout. C'est des espaces qui n'y a pas beaucoup de place pour les personnes qui viennent des milieux populaires. Et au Brésil, c'est pareil. Donc, un écrivain qui vient d'une favela, qui va essayer d'envoyer un livre, un manuscrit pour une maison d'édition, il va être rarement pris. Parce qu'il ne suit pas les codes, parce qu'il faut aussi avoir les contacts. Donc, on voit un marché éditorial qui est majoritairement blanc. Et... j'ai oublié ta question.
Oui, c'était faire le contexte oui. Politique général et parler des maisons d'édition en particulier, mais voilà.
Voilà, du coup, c'est une société brésilienne, donc extrêmement raciste. Le racisme, il est tellement présent que les gens ne se rendent pas compte. Voilà, les blagues, les... Bon, partout, on voit dans les entreprises, dans le milieu culturel, qui est très... à la télé aussi. Bon, ça change depuis quelques temps. Donc, il y a une représentativité plus grande, mais ce n'est pas assez équilibré encore. Donc, c'est une lutte qui n'a pas encore vu sa fin. Mais on est là pour essayer d'échanger ces impositions qui, des fois, c'est donné par l'État, par les entreprises, par la société d'une manière générale, pour les gens qui ont le pouvoir économique.
Eh ben, en tout cas, j'espère que ce que tu racontes, la BR Marginalia, contribue à ces luttes, je n'en doute pas. Peut-être on peut parler un peu plus du coup de Rouge Favela, de Wesley Barbosa. Comment tu as connu cet auteur?
Donc, j'ai connu Wesley, c'était en 2020, c'était avant le Covid, je pense 2020 ou 2019. J'étais sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et je suis tombée sur une publication. Donc, il parlait d'un écrivain qui vendait ses livres tout seul dans la rue et qu'il travaillait dans un supermarché et qu'il usait sa pause du midi pour aller dans un cybercafé parce qu'il n'avait pas d'ordinateur chez lui. Donc, il utilisait un cybercafé pour écrire son livre. Et comment il a sorti de la pauvreté en luttant pour vendre ses livres. Donc, il sortait le soir dans les bars de São Paulo. Il vendait dans la rue, dans les événements littéraires. Et donc, j'étais fascinée par son histoire. Et du coup, je l'ai contacté. Et depuis, donc, à la base, je lui dis... Donc j'ai commandé un livre, il m'a envoyé un livre en France et je lui dis, je vais trouver une maison d'édition pour toi, je vais devenir ton agente littéraire. Mais après j'ai fait justement le devoir d'édition, j'ai créé le catalogue, dans le catalogue j'avais mis l'œuvre de Wesley Barbosa et une fois en regardant, j'ai dit mais pourquoi devenir agent littéraire si je peux devenir éditrice? Voilà, c'était comme ça qu'on s'est rencontrés. Du coup, ça fait 4 ans qu'on discute. Et finalement, cette année, on a réussi à accoucher la version française de son livre. La version portugaise s'appelle Viela Ensanguentada, qui en français, ça se traduit comme un ruelle ensanglanté. Voilà. Mais on a fait un choix éditorial et aussi commercial de changer le titre pour Rouge Favela, pour situer un peu, comme c'est le premier livre de la maison d'édition, pour situer que ça se passe au Brésil.
Et
voilà.
Puis on en avait discuté, Ruelle ensanglantée, ça fait très livre de polar.
Voilà.
Et il y a beaucoup de polars qui sortent et du coup ça aurait peut-être... alors que c'est pas du tout un polar.
Voilà.
Est-ce que je lis l'extrait choisi du coup pour vous imprégner, donc chères auditrices et auditeurs, dans ce livre, et puis après je te poserai d'autres questions sur le livre. Donc voilà, j'ai refermé le livre en me disant que la tragédie riait chaque jour où j'ouvrais les yeux et voyais autour de moi le manque de nourriture et la misère d'autres gens qui partageaient mon sort, mais que j'avais aussi quelque chose en ma faveur, la lecture. Cette source de savoir dans laquelle je ne me lasserais jamais de me baigner. J'aimais le silence et les bruits de cette pièce remplie de livres sur les étagères, car je m'étais rendu compte que la paix et le chaos régnaient dans la magie des mots, que le sacré et le profane s'affrontaient dans les écrits des poètes, des philosophes et des romanciers. La sagesse et l'ignorance ne se combattaient pas l'une contre l'autre, car l'une avait besoin de l'autre pour exister. Mais sans curiosité, tout s'écroulerait. J'ai eu ce genre de conversation avec Dandara et je lui ai demandé pourquoi elle s'appelait comme ça. « Viens pas me dire que tu ne sais pas qui est Dandara ?» elle m'a demandé. « Bah, je sais pas tout. Tu devrais avoir honte de ne pas savoir qui était la guerrière Dandara. » « Tu te souviens que je vais plus à l'école ?» C'est vrai. « Mais t'as entendu parler de Zumbi dos Palmares, non ?»« Bien sûr. » Dandara était une guerrière noire de la période coloniale du Brésil. Elle s'est suicidée en se jetant dans l'abîme depuis une carrière pour ne pas être réduite en esclavage. Elle m'a expliqué que Zumbi dos Palmares était le mari de Dandara et qu'ils avaient eu 3 enfants. Mais pourquoi on t'a donné ce nom? Ma mère était professeure d'histoire et militante. Elle me parlait toujours de Zumbi, de Dandara et des Quilombos. On m'a donné ce nom pour que j'oublie jamais notre combat quotidien. Désolée d'avoir écorché Palmares. Donc voilà, ça c'était un tout petit extrait d'un livre donc, qu'on vous recommande de lire. Et donc pourquoi toi, qu'est-ce qui t'a touché dans sa manière d'écrire ?
Ben, déjà que j'aime beaucoup la littérature directe, un peu crue, que tu sens qu'il y a le cœur, les tripes de l'écrivain. C'est pas superficiel, c'est comme s'il écrivait avec sa peau. Et du coup, c'est ça que j'aime dans la littérature marginale, c'est que il y a pas trop, comment dire, de ornements, je sais pas, des trucs décoratifs. C'est la réalité comme il voit, comme il vit. Et comme c'est un lieu aussi dont je viens, j'ai vécu jusqu'à mes 7 ans dans une favela à Bahia. C'est pas la même favela que Salvador, c'est des configurations différentes, mais j'avais ça en c'est un lieu en commun. Mmh. Et pour moi, c'est important d'entendre quelqu'un qui est dans la extrême marge de la société, parce que c'est ça au Brésil, les hommes noirs sont, parce qu'il y a des études, contrairement à la France, les hommes noirs sont les hommes qui subissent plus de violences policières, donc sont plus je peux pas donner les chiffres exacts, mais la quantité de homicides par jour, elle est énorme. Et donc pour moi, c'est ça, un homme noir qui écrit un livre, c'est, et qui sort de la pauvreté grâce à la littérature, c'est un survivant. Mmh. Ah, ça c'est du survivant.
Oui, oui, tout à fait.
Et pour moi, Wesley, pourquoi publier ce livre, c'est pour que d'autres jeunes aussi dans ces conditions, ils puissent se lire et voir qu'il y a d'autres portes de sortie, qu'il n'y a pas juste à faire les choses que... Parce qu'il y a... Le manque d'opportunités, il est tellement grand juste parce que tu as la peau noire. Donc, de rêver, c'est ça. Pour moi, ce livre, c'est un rêve réalisé. C'est Wesley, il était le seul à croire en lui. Quand tu viens d'une favelle, tu dis tu vas devenir écrivain, bah, les gens peuvent rigoler de toi parce qu'il n'y a pas d'autres références. Donc pour moi, c'est ça. Je veux que cette littérature, elle puisse aussi permettre que d'autres jeunes puissent écrire et motiver les gens à écrire leur réalité.
Dans le livre, il raconte donc ses allers-retours jusqu'à la bibliothèque. Il y a d'autres extraits où il parle de comment c'est un havre de paix en fait pour lui par rapport à la vie qu'il a chez lui, mais aussi dans la favela.
De la violence qu'il subit qu'il vit, que lui il subit, que sa mère elle subit en tant que femme noire, femme de ménage dans la famille des riches. L'effet d'avoir faim, une mère absente parce qu'elle, dans la semaine, elle est chez ses patrons. Donc au Brésil, il y a beaucoup ça aussi, les femmes de ménage. Donc elles doivent laisser leurs enfants grandir, être élevées par des voisines, des parents proches. Mais c'est des enfants qui grandissent un peu dans la rue parce que la mère elle est en train de soigner, de garder des enfants des familles blanches. Tu vois, c'est malheureusement cette réalité. Et Wesley, c'est un des cas rares. Et du coup, c'est pour ça que cette littérature est très importante d'être diffusée.
Et il y a un autre aussi point quand même dans le livre qui marque le livre, c'est quand même tout ce travail, toute cette question autour, mais qui est reliée aux questions de violence policière et au fait d'être tué, parce que c'est les meurtres policiers qui sont évoqués, le tabassage et les meurtres. Et donc de tout ce rapport au quel travail qui risque moins d'être réprimé. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'interactions dans le livre avec d'autres humains autour de cet enjeu de il n'y a pas seulement cette question de faire de l'argent, mais comment on fait l'argent pour aussi ne pas risquer la foudre policière, quoi. Ok. Et est-ce que tu as prévu de traduire d'autres livres de lui? Et parce que est-ce que déjà, pardon, il est connu lui maintenant au Brésil, le fait de, ou est-ce qu'il est resté quand même très marginal encore? Et j'imagine il a publié d'autres livres. Est-ce que tu vas en publier toi d'autres?
Bah du coup, Wesley, il a déjà publié Rouge Favela, c'est son premier roman, et il a publié déjà 7 livres.
Waouh. Ok.
Donc surtout de contes. Là, il est en train de faire son troisième roman. Et Wesley, devenu connu du coup grâce aux réseaux sociaux. Donc il utilise surtout Instagram pour vendre ses livres. Donc ça veut dire qu'au Brésil, ses livres, ils ne sont pas vendus dans les librairies.
Ah ok.
C'est lui, donc c'est aussi un auteur que je dirais révolutionnaire dans ce point, parce que sans être vendu dans les librairies, il a réussi à vendre plus de 10 000 exemplaires de ses livres, qui c'est énorme pour quelqu'un qui fait tout seul. Voilà, c'est sans financement, c'est lui qui investit des sous et qui arrive à gérer son nouveau business. Et là, il a aussi il vient de créer une maison d'édition dédiée à la littérature aussi marginale afro-brésilienne. Pas que marginale, mais afro-brésilienne d'une manière générale. Et voilà, du coup, on discute assez régulièrement, on échange des suggestions de livres à être publiés. Et
ça doit être passionnant, les disques qui s'incluent.
Et du coup, il y a un jeune, j'ai oublié son prénom, c'est un jeune mineur, non accompagné, que je sais que c'est l'ami de mon copain qui l'héberge chez elle, et je ne l'ai jamais rencontré, mais du coup, j'ai voulu lui offrir un livre. Donc, j'ai lui offert un livre à travers cet ami. Et il a dévoré le livre en 2 jours. Et il a dit qu'il avait vraiment trop aimé le livre, qu'il voulait lire plus de littérature comme ça. Donc pour moi, d'avoir le retour d'un jeune qui vient d'arriver en France et qui est aussi dans une situation de marginalité, il s'est senti, je sais pas, pris dans le livre et je pense d'une certaine manière aussi représenté, ça me touche beaucoup, parce que c'est ce public surtout que j'aimerais toucher. Je ne dis pas que c'est une littérature dédiée, mais c'est que d'autres personnes puissent lire et de se dire aussi, moi aussi je peux écrire, et voilà, de diversifier le marché éditorial, la littérature.
Et c'est pour ça que tu fais ça, tout ça, c'est pour que des personnes puissent le lire et se sentir pris et soutenu d'une manière que c'est réparateur. Ce livre, il est réparateur en tout cas à des endroits, oui.
De voir que du coup, même avec beaucoup de contraintes, la galère, le racisme, la violence policière, il faut malheureusement, mais c'est le choix, si c'est la seule chose qui reste, bon, il faut garder l'espoir, y rêver, y se battre. C'est ça, pour moi, c'est comme ça que j'y suis arrivée jusqu'ici. Je parle pas de la méritocratie, mais je parle de quand tu as rien, il faut t'accrocher à tes rêves et aller jusqu'au bout. Essayer de donner tout et surtout demander de l'aide aux gens à notre tour. Parce que c'est ça, on ne peut pas demander tout à une seule personne, mais si on demande un peu à chacun, et que c'était comme ça que j'ai réussi aussi à réaliser ce projet, c'est que j'ai demandé de l'aide à plusieurs personnes. Du coup, aux éditions Aid Project, à toi par exemple, à des amis, à tellement de personnes, au traducteur, que c'est un ami aussi que je connais depuis plus de 20 ans. Donc, c'est très important la collectivité pour réaliser ces projets, qui c'est pas quelque chose que j'ai fait pour moi, pour mon ego, mais c'est quelque chose pour un collectif. Voilà.
Merci de le rappeler. Un livre, une maison d'édition, c'est souvent l'agrégat de beaucoup de travail de plein de personnes, même si après il y a un nom qui ressort, c'est du travail collectif. Ouais. Et alors, comment on se procure le livre? Il est trouvable en maison, en librairie?
Du coup, pour l'instant, le livre, il est disponible sur le site El Oasso. Donc, si vous tapez BR, Rouge Favela, El Oasso, ça va apparaître. Et le livre aussi, pour les gens qui habitent à Marseille, il est disponible dans la librairie des éditions White Project, au 12 Boulevard National. Aussi dans la librairie Maupetit, à la Canebière. Et dans la librairie Transit, Boulevard Libération. Et aussi à d'autres points de vente. Bon, mon premier point de vente, c'était chez le boucher, un boucher qui est dans ma rue. Donc, c'est le ravioli de Lily. Et aussi dans une maison de thé à côté de l'église de Réformée qui s'appelle Rolisti. Voilà.
Ok. Et donc, il va avoir une sortie littéraire. Il va faire partie de la sortie littéraire de septembre dans toutes les librairies.
Oui. Mais il est déjà disponible.
Il a un ISBN, donc c'est possible de le commander chez n'importe quel libraire quand même.
C'est possible de commander chez n'importe quel libraire, mais si les gens qui écoutent, si c'est possible de passer par le site El Oasso, c'est préféré.
Tu préfères.
Je préfère.
Ok, et donc j'avais oublié, j'ai le livre devant les yeux, donc pour info il coûte 14,90€. Et parle-nous vite fait rapidement de la couverture.
Ah oui.
Il est rouge, elle est magnifique cette couverture, elle a toute une histoire aussi.
Oui, du coup c'est un point important que j'ai oublié de dire, c'est que donc pour chaque livre, donc mon projet c'est pour chaque livre, c'est de mettre en lumière un écrivain, écrivaine et aussi une artiste ou un artiste issu de favela du Brésil. Donc pour cette couverture, c'est un artiste qui vient de Recife, qui s'appelle Francisco Mesquita et qui travaille avec matériaux recyclables. Donc il utilise du carton, des canettes, beaucoup de, il fait du collage et voilà. Donc j'ai utilisé un de ses ouvrages pour illustrer cette première couverture.
Ben merci, moi j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
Ben non, juste je suis très reconnaissante d'être là. Merci beaucoup et juste de demander aux gens de, on peut s'aider, chacun donne un peu pour ceux qui ont besoin, pas besoin de donner grande chose, mais un peu, si tout le monde est solidaire un avec les autres, je pense que on peut pas, malheureusement on peut pas changer le monde parce qu'il est très pourri là, on peut pas changer actuellement, mais on peut faire des choses à notre échelle. Donc voilà, soutenez surtout les gens qui sont vraies galères et aussi soutenez les projets indépendants dans des choses qui vous avez qui a du sens. Voilà, merci beaucoup.
Ben merci beaucoup d'être venu. On te réinvitera pour tes futurs livres. Il y a des projets passionnants que tu es en train d'imaginer et que tu viendras nous présenter dans un an ou deux. Et voilà, et on va pouvoir passer à l'agenda pour conclure. Il y a un festival au centre LGBTQIA+ de Marseille, un festival intersectionnellement queer et inclusif qui se passe ce week-end, le festival Houses. Donc ce soir à 19h30, soirée orientale avec Mohamed Issaoui et son Beatle et drag avec Miskin La Maison. C'est à partir de 19h30. Demain, samedi, il y aura des performances et une scène ouverte. Donc 17h30, performance publique décoloniale par Pierre Nombé de Niofar. Voilà, c'est un laboratoire expérimental. Et apparemment, ça se passe à l'extérieur, départ depuis le centre LGBT vers le Vieux-Port. 19h30, performance surprise d'artistes queer, migrantes et ou racisés. Et dimanche 4 août, il y aura une journée d'études sur l'universalisme versus diversalisme. Des discussions d'un sujet brûlant avec beaucoup d'intervenanteux, des artistes et intellectuels engagés. Samedi, il y a également une veillée pour Gaza à 20h. Par Urgence Palestine Marseille, sous l'ombrière du Vieux-Port. Donc ça ne se fait pas le dimanche à 15h comme d'habitude, mais samedi à 20h.
Il y a également un festival organisé par l'armée, la merveilleuse barre, excusez-moi. Donc des tables rondes, du DJ. C'est un, du coup le festival pour accueille des artistes racisés et sexisés. Ça se passe tout le mois d'août. Le premier événement, c'était hier et il y en a le prochain, le 8 août. On vous invite à retrouver toute leur programmation sur leur page.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org. Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.